Turning today to the Gospel of John, chapter 2 and verse 12.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean au chapitre 2 et au verset 12. L'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 12. En parlant de Christ, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Et nous en arrivons, dans notre étude de l'Évangile de Jean, à ce moment où Christ purifie son temple, c'est-à-dire qu'il purifie le temple pour la première fois dans son ministère, et il le refera à nouveau à la fin même de son ministère, avant de se laisser arrêter et avant d'aller à la croix du calvaire pour notre rédemption. Et je vous rappelle le verset 11 du chapitre 2. Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée. Il a changé l'eau en vin et il manifesta sa gloire, en particulier pour ses disciples. Et ses disciples crurent en lui. Les 5 ou 6 disciples qui ont déjà été appelés pour être ses disciples croyaient déjà auparavant, mais leur foi a été fortifiée. Il manifesta sa gloire. Et l'apôtre Jean continue à présent pour nous montrer la gloire de Christ dans le récit que nous allons considérer ce matin. Ainsi, le verset 12, c'est là que nous commençons. Et j'aimerais analyser ce passage et le diviser simplement en me référant aux attributs de Christ, à ses caractéristiques qui sont reflétées dans ce passage. Et ce passage est encore plus profond. Le premier point, c'est la pureté de Christ, sa sainteté. Ainsi, il part de Cana en Galilée, il va à Capernaum pendant peu de temps, mais son réel objectif, c'est le verset 13, d'aller à Jérusalem. Et la Pâque des Juifs était proche. Et comme il allait garder en toute chose la loi de Moïse à la place de ses enfants, Christ est allé avec sa famille à Jérusalem. C'est là la première visite à Jérusalem. Et il y en a 4 dans l'évangile de Jean. Peut-être qu'il y en avait plus, mais Jean parle de 4 visites à Jérusalem. Et c'est là la première. Ainsi, Christ va à Jérusalem. Et là, au verset 14, « Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis et des pigeons avec les changeurs. » qui était assis. Ceci était extraordinaire. Peut-être que ceci s'était passé pendant des années, mais nous voyons ceci dans l'évangile de Jean, que là, le temple a été transformé, ou au moins la cour des non-juifs, qui est là, en plein air, qui est transformée comme un marché, avec du commerce, et de la marchandise. Et si vous considérez tous ces animaux qui devaient être sacrifiés pendant la semaine de Pâques, et Joseph, l'historien juif, nous dit qu'il y avait à peu près 250 000 animaux qui devaient être sacrifiés. Souvent, Joseph exagère, mais c'est de toute manière un grand nombre de sacrifices pour toutes ces familles, tous ces gens qui venaient au temple. Ainsi, il se faisait beaucoup d'argent. Il y avait un grand nombre de personnes qui vendaient des animaux également. Et on pense, ceci est probablement vrai, que le souverain sacrificateur et les prêtres du temple vendaient ces animaux à Jérusalem et en faisaient de l'argent. Et c'était là la meilleure semaine pour eux dans toute l'année où ils allaient faire beaucoup d'argent. Ainsi, toute la cour des non-juifs, je ne pense pas qu'ils allaient plus loin, mais était pleine d'une grande foule de gens qui vendaient des animaux et beaucoup de changeurs d'argent, ils devaient payer dans une monnaie juive. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas cette monnaie juive. Les gens venaient de loin. Ces juifs dispersés de partout venaient pour la Pâque. Il y avait ces changeurs d'argent et nous pouvons imaginer que les prêtres du temple qui permettaient cela et tous ceux qui étaient dans le temple accordaient la meilleure place aux gens les plus riches parmi ceux qui vendaient. Vous pouvez imaginer ce grand marché et le bruit et les clameurs Et c'est là ce que Christ a vu, dans sa pureté, dans sa majesté. C'était là la maison de son Père. Il était le Fils éternel de Dieu et il est venu dans le temple pour le purifier. C'est là ce que nous lisons. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis et des pigeons avec les changeurs qui étaient assis. Et au verset 15, « Ayant fait un fouet de cordes, de petites cordes, qu'est-ce que c'était que cela ? Peut-être qu'il y avait des petits bouts de cornes qui étaient là à cause du grand nombre d'animaux qui étaient vendus et achetés, utilisés. Mais c'est des petites cornes. C'était simplement un instrument qui était un symbole. Il n'a fouetté personne avec cela. Ce n'était pas un vrai fouet qui avait des grandes, des longues cordes avec du métal et des os attachés pour lacérer. Mais il n'a pas utilisé un fouet de telle sorte. Mais un fouet de petites cordes. Simplement des cordes qui avaient peut-être 10 ou 20 centimètres de long. Simplement un symbole de condamnation. Où cet endroit était plein d'une grande foule de gens déterminés, de fermiers, de gens qui étaient là pour vendre. Et ils n'allaient pas abandonner leur place. La police du temple leur avait permis de prendre leur place. C'était quelque chose qui se passait annuellement et même probablement plus souvent que cela. Et cependant, un homme, d'une certaine manière, a été capable de les chasser hors du temple, tous. Nous ne savons pas par quel moyen, mais d'une certaine manière, Christ, en tant que Fils de Dieu qui est devenu homme, a été capable de révéler son autorité d'une certaine manière, sa puissance, et elle était irrésistible. Ils sont sortis du temple, ils ont fui, et il a renversé les tables, il les a amenés hors du temple, et ce terme traduit par « il les chassa hors du temple », c'est-à-dire il les a jetés hors du temple. Bien sûr qu'il ne les a pas jetés de manière violente, mais ce terme est puissant pour indiquer que c'est presque comme par force, mais il n'y avait pas eu de force, mais simplement la puissance de son être. Il les a tous amenés hors du temple. Avec les animaux également, ceux qui gardaient les animaux, les changeurs, et il renversa leur table. Et au verset 16, le récit de Jean, qui était un témoin oculaire, ce récit est très précis parce qu'il était là, et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, les détails de ce récit, il dit à ceux qui vendaient les pigeons, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Littéralement, un marché. Une maison de marchandises ou de marché. Littéralement, comme un grand marché. Ne faites pas de la maison de mon père. C'est là le Fils éternel de Dieu, mon père. Les prêtres du temple étaient probablement stupéfaits. Qui est celui-ci qui dit qu'il est le Fils de Dieu ? Qui est celui-ci qui a agi malgré toutes nos permissions ? Et nous faisons tant d'argent de tout ce commerce. Qui est celui qui est si téméraire, qui a cette puissance pour chasser tous ces gens du temple ? Quand ils ont vu tous ces fermiers si durs qui sortaient du temple, oh chers amis, il n'y avait pas simplement des douzaines d'entre eux, mais des centaines d'entre eux. Et ils ont quitté l'endroit précipitamment comme si l'endroit était en feu. Et au verset 17, les disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison m'a dévoré ». Ceci est cité du psaume 69. Psaume 69. C'est un psaume qui est long et à partir du verset 6 au verset 8, « Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la honte a couvert mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison m'a dévoré, m'a consumé, et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. » Et les disciples connaissaient ce passage. Et peut-être que les disciples commencent à réaliser, les 5 ou 6 disciples qui ont déjà été appelés. Ceci dépend si vous incluez Jacques ou non, c'est une autre discussion. Ils ont dû se dire, oh, ceci s'applique à Christ. Nous voyons là une prophétie messianique dans l'Ancien Testament. Le zèle de ta maison, il est offensé parce que l'honneur de Dieu est détruit ici à cause de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Il est offensé à cause de toute l'hypocrisie et la superficialité de leur adoration, la formalité. Ils purifient le temple. Peut-être qu'ils se sont dit, oh, Malachie, chapitre 3, verset 1, et comment le Seigneur, le Messie, quand il vient, viendra avec un esprit auquel personne ne pourra résister. Il va purifier son temple. Mais c'est là un verset auquel il se rappelle. Et les versets autour également, est-ce que cela signifie qu'il sera rejeté? Nous avons commencé à le suivre, celui que nous pensons être le Messie. Est-ce que cela signifie qu'il va être rejeté? Oh, c'est intéressant qu'il pense à ce verset en particulier. Et Christ est là, qui purifie le temple et qui montre sa pureté, qui manifeste sa pureté. Et ceci nous parle à nous. Oh, si Christ purifiait son temple 3 ans plus tard, il l'a fait à nouveau. En même temps qu'il purifiait le temple, qui était un miracle en soi-même, extraordinaire que ceci pouvait être fait, si rapidement, si facilement, c'était un miracle. Mais c'était également attesté par des miracles au verset 23, pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques. Plusieurs crurent en son nom, beaucoup, voyant les miracles qu'il faisait. Ainsi, même après cela, ou alors qu'il purifiait le temple, il y a des gens qui venaient à lui et il les guérissait. Il a fait exactement la même chose quand il a purifié le temple 3 ans plus tard, une deuxième fois. La première purification du temple était un avertissement et un appel à la repentance, un appel au clergé officiel juif pour qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils soient sincères. Et c'était un avertissement pour les reprendre par rapport à ce qu'ils faisaient. Et 3 ans plus tard, c'était le dernier avertissement avant la crucifixion. Et alors, le jugement du temple est arrivé plus tard. Le premier avertissement, puis le dernier avertissement avant sa mort. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas répondu à cet appel. Ils ont été complètement indifférents. Et ceci nous parle à nous. Christ ne peut pas accepter l'hypocrisie et la superficialité qui rentrent si facilement, même dans la maison de Dieu et dans le culte. Et je donne un exemple. Par exemple, des livres chrétiens et des publications chrétiennes. J'ai suivi ceci d'année en année de près dans ce pays et en particulier aux États-Unis. Il y a eu certaines familles qui ont commencé des maisons d'édition chrétiennes et presque toutes étaient non seulement évangéliques mais également profondément réformées et elles étaient connues pour publier de la bonne littérature chrétienne et leur liste de publications était parfaite théologiquement. Oh, des très bonnes maisons de publication. Et le temps a passé. Les enfants ont pris le relais et les enfants des enfants. Certains étaient intéressés par le commerce et certaines maisons d'édition sont allées à d'autres personnes. Et même ceux qui sont restés dans la famille ont commencé à publier de mauvais livres. Il y a bien des années, une maison d'édition américaine a commencé à publier des livres très libéraux en publiant du matériel qui n'était pas bon. Loin de tous ces livres qui étaient publiés dans le passé, parce que la chose la plus importante, c'était de faire de l'argent. Ce qui était important, c'était de publier plein de livres pour faire beaucoup d'argent. Et les bons livres n'étaient pas vendus facilement, alors ils ont accepté toutes sortes d'autres livres, de mauvais livres. Même cette maison d'édition qui publiait les livres de Spurgeon a été reprise par une entreprise complètement païenne. Et ceci s'est passé aux États-Unis. Et ceci rentre dans les églises. Voyez ce qui se passe pour l'adoration du Seigneur dans les églises. Dans les dernières 30 années, ce qui s'est passé avec toute cette musique contemporaine qui est rentrée dans l'église, qui est conduite par des stars, des célébrités qui se comportent comme des stars païennes pour faire beaucoup d'argent et pour faire même de la publicité, qui utilisent le même style, la même méthode, le même langage que les païens. Et ceux-ci rentrent dans l'église pour faire de l'argent. Et dans beaucoup d'églises, ces choses ont été acceptées. Et même pendant le culte, pour adorer le Seigneur. Sommes-nous sincères quand nous venons dans la maison de Dieu? Sommes-nous concentrés sur les choses du Seigneur, sur la pureté du Seigneur? Et voici que Jésus vient pour la première fois à Jérusalem pendant son ministère, dans le temple, et il doit purifier le temple. Ainsi, nous devons faire bien attention que nos cœurs sont sincères, que nous n'amenons pas ces choses dans notre cœur qui nous distraient de l'adoration du Seigneur. Oh, cette église et d'autres églises, il y a quelques générations, il n'y aurait pas eu de fleurs même dans l'église. Les gens faisaient bien attention d'être sûrs que nous ne sommes pas distraits de notre objectif principal. De nos jours, nous avons des fleurs et nous considérons que ces choses ne nous distraient pas de notre adoration du Seigneur, à moins que nous soyons allergiques aux fleurs. Mais il y a des choses qui vont nous distraire de l'adoration sincère du Seigneur. Nous devons faire bien attention que ces choses soient hors de l'Église, de ne pas les accepter. Et mon deuxième point que j'ai déjà mentionné, c'est la puissance de Christ. Voyez au verset 18, les Juifs prenant la parole lui dirent, et ce qui est à l'esprit ici, c'est les chefs juifs, la police du temple, les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Quel signe? Ceci est extraordinaire. Quelle question que celle-ci? Quel signe est-ce que tu nous montres? C'était un signe en soi. Un signe extraordinaire. Quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant ou qu'ils ne voulaient pas voir. Qu'un seul homme avec un petit fouet qui était simplement un symbole et une parole puissante pouvait chasser tous ces hommes qui faisaient du commerce hors de la cour du temple. C'était un signe en soi. Et tous ces autres signes accompagnaient également son ministère, ses guérisons pleines de compassion et tant de guérisons. Et là, les autorités de ce temps-là, les chefs juifs disent « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Ce qu'ils nous montrent ici, c'est bien plus qu'ils sont complètement aveugles. Et ceci est volontaire. Ils ne veulent pas reconnaître aucun signe. Ils ne veulent pas accepter pour un seul moment que celui qui est là est au moins un prophète de la part de Dieu qui peut-être est le Messie. Il y a Jean-Baptiste qui avait des foules, des grandes foules, qui écoutaient sa prédication, qui venaient de partout pour l'écouter. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il devait savoir, il disait que le Messie était là et qu'il est celui qui le précède. Il a identifié Jésus de Nazareth comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui ôte même à présent le péché du monde. Mais ils ne veulent pas écouter ceci, ils ne veulent pas y croire. Et ils le rejettent. Et à présent, nous voyons leur grande résistance. Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Ou quelle est ton autorité pour faire cela? Par quelle autorité as-tu agi contre l'autorité de la police du temple? Par quelle autorité est-ce que tu dis que tu es le Fils de Dieu? Nous avons entendu que tu as dit « c'est la maison de mon Père ». Les Juifs ne parlaient pas ainsi. Ils étaient si aveuglés. Ils ne pouvaient pas voir que c'est là le premier miracle que Christ a opéré à Jérusalem, la purification du temple. Sa deuxième purification avant la crucifixion sera de manière technique son dernier miracle. Il a rendu la vue à Bartimée à Jéricho. Il a purifié le temple et il a guéri des gens. C'est là ces derniers miracles publics. Il y a eu un miracle après cela. c'était le figuier, mais ceci était simplement pour les disciples. Mais cette purification du temple était un grand signe au début et à la fin de son ministère. Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ? Sa puissance. Et j'ai référé déjà à Malachie chapitre 3 verset 1. Ces écritures étaient lues régulièrement par les prêtres juifs. Même dans leur culte public, ils connaissaient ces textes. Et là, ces textes étaient accomplis devant eux, que le Messie allait venir dans son temple, qu'il allait le purifier, que ceci sera irrésistible quand il le fera. Ainsi, il y a la puissance de Christ, et sa puissance nous purifie à la conversion. C'est là ce que c'est que la conversion, quand nous sommes amenés à nous tourner vers Christ, à nous confier en lui, et par cette œuvre de puissance, il nous purifie. Et alors nous sommes conscients de notre péché, nous nous repentons de notre péché, et dans la vie chrétienne, régulièrement, nous réalisons notre grand besoin de nous reconsacrer à Christ, ces temps de consécration toute particulière, et nous sommes à nouveau purifiés. Alors que nous sommes conscients à nouveau de notre péché, de notre besoin du pardon de Christ, et il nous purifie. Mais je continue avec un troisième point, et nous voyons ici, au verset 19, cette grande réponse qu'il donne à la police du temple, et Christ savait ce qui allait se passer. Jésus répondit et leur dit « Abattez, détruisez ce temple, et je le relèverai dans 3 jours. » Nous voyons ici qu'il savait ce qui allait se passer. Il est notre prêtre, notre roi et notre prophète. Et ceci est une prophétie de la part de Christ. Et ceci est comme dans une énigme, une vérité qui est cachée, comme une prophétie juive allégorique, une énigme qui contient une vérité, une déclaration et une vérité là, et ces choses seront accomplies. Jésus répondit et leur dit « Détruisez ce temple !» Et ce terme utilisé ici en araméen et dans notre grec original peut être utilisé soit pour le temple ou peut s'appliquer également à votre corps. Détruisez ce temple, détruisez ce corps. Ces deux termes peuvent être utilisés et je le relèverai dans 3 jours. Vous pourriez dire ceci pour quelqu'un qui est guéri d'une maladie, qui est relevé ou d'un bâtiment qui est reconstruit. Et Jésus répondit et leur dit « Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. » Mais les Juifs n'ont pas compris. Même si leur esprit était enseigné pour comprendre quand quelqu'un parlait dans une énigme ou quand quelqu'un déclarait quelque chose qui avait une signification profonde, ils étaient enseignés, ceci faisait partie de leur culture, de parler ainsi de temps en temps. Cependant, ils n'ont pas compris. Pas du tout. Les Juifs lui dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple. » Oui. Et ils continuaient encore à le construire. Il y avait encore des parties qui devaient être construites. Et le temple ne sera pas fini avant quelques semaines, avant l'arrivée du futur empereur romain Titus, qu'il a détruit en 70 après Jésus-Christ. Et ceci a mis 46 ans pour en arriver là, et tu le relèveras dans 3 jours. Leur esprit était complètement fermé à ce sens plus profond que le Seigneur voulait donner à ses paroles. Détruisez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. Les disciples ont compris plus tard au verset 22, « Après donc qu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à cette parole que Jésus avait dite. » Et ils ont cru, même à ce moment-là, ils n'ont pas entièrement compris cette parole. Ils parlaient de son corps et en 3 jours, je vais le relever. Mais cette prophétie a été accomplie, bien sûr. Christ a souffert, il est mort pour les pécheurs et ensuite il est ressuscité des morts. Quand les chefs juifs ont crié pour mettre à mort Christ, ils n'ont pas réalisé que dans sa mort, le temple également serait détruit. Non seulement son corps serait détruit, mais également en le crucifiant lui, ils allaient amener à une fin la sacrificature juive, ils allaient amener à une fin la validité même du temple. Quand Christ a souffert qu'il est mort, il a accompli tout ce que le temple représentait. Le temple était toujours simplement un symbole, une prophétie. Et tout ce qui s'y passait était simplement une prophétie, un symbole, une ombre des choses à venir, ces sacrifices. Quand les chefs juifs ont crié pour que Christ soit mis à mort, toutes les prophéties ont été accomplies. Toutes ces ombres ont été accomplies. Ces symboles ont été accomplis et Christ a tout accompli. Ainsi, toutes ces choses sont devenues superflues et étaient finies. Et à partir de ce jour, de sa résurrection des morts, aucun sacrifice dans le temple n'avait une signification ou une validité parce que le sacrifice parfait a été fait, accompli. Peu de temps après, le temple serait détruit en 70 après Jésus-Christ et Dieu a retiré sa main de protection à cause de la crucifixion de Christ et n'ont pas réalisé. Christ a dit « détruisez ce temple », c'est-à-dire son corps. Certaines personnes pensaient qu'il a même pointé le doigt à lui-même quand il a dit « mais ceci n'est pas écrit dans ce passage, j'en doute ». Mais il parlait de ce temple, de son corps et à la fois également de ce temple parce qu'il n'aura plus aucune signification, aucune validité après sa mort et sa résurrection. Et je le relèverai. Et par sa propre puissance, il a relevé son propre corps. Et par la puissance du Père, également dit l'Écriture, parce qu'il a accepté le sacrifice parfait du Fils et son expiation. Et par la puissance de l'Esprit également, il est ressuscité des morts. Et en ressuscitant des morts, un nouveau temple a été amené à la vie. Christ était le temple et son Église en faisait partie. Ainsi, à partir de la résurrection de Christ, il y a eu un nouveau temple, mais qui n'est pas en pierre, mais c'est Christ. Et ses enfants qui sont réellement nés de nouveau, nous sommes à présent le temple du Dieu vivant. Ainsi, c'est une déclaration si profonde. Détruisez ce temple, et je le relèverai dans 3 jours. Ensuite, j'en arrive au verset 23, avec un dernier point qui sera celui-ci, la perception de Christ, la compréhension de Christ. Pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, dans ce jour de la fête de Pâques, parce que ce qui sera dit s'est passé pendant la semaine, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Beaucoup ont cru et cependant, mais Jésus ne se fiait point à eux. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'a pas appelé de disciples parmi eux et en plus, il n'a pas accepté leur foi ou il ne les a pas non plus appelés à le suivre comme disciples d'une manière élargie. Mais ceux qui ont cru en lui ne croyaient pas profondément. Beaucoup ont cru en son nom. Ceci est intéressant, la manière dont c'est dit. Ceci montre qu'ils ont cru non seulement qu'il faisait des miracles, mais ils ont cru dans son nom qu'il était le Messie. Ils ont cru, aux gens utilisent un langage profond, ils ont cru en lui en tant que Messie, Christ. Cet homme et l'homme que nous attendons, le Messie, celui qui a été promis. Mais ils ne se sont pas tournés vers lui pour le pardon du péché. Ils ne l'ont pas vu comme étant leur Messie spirituel. Ils ne lui ont pas donné leur vie. Ils ne se sont pas abandonnés à lui. Ils ne se sont pas donnés à lui. Mais simplement, ils ont reconnu qu'il était le Messie. Ainsi, ils ne se fiaient point à eux. C'est là la perception de Christ, l'intelligence de Christ, il lit dans nos cœurs Et parfois, vous voyez quelqu'un, vous espérez que cette personne est convertie et elle fait du progrès, elle peut discuter des doctrines et les comprend, ou peut-être cette personne aime beaucoup les doctrines, les informations théoriques. Peut-être que ces personnes sont bonnes en apologétique et peuvent débattre facilement dans la vérité de l'Évangile, dans l'œuvre de Christ, etc. Et parfois, vous êtes un peu surpris parce qu'il ne semble qu'il n'y ait pas de cœur, pas de témoignage d'un amour personnel pour Christ, ou pas de réalisation de l'œuvre de Christ. Vous ne voyez pas ces signes évidents que cette personne marche avec le Seigneur et qu'elle est remise en question à cause de son péché. Ces personnes sont bonnes dans la théorie et nous voyons ces choses de nos jours. Nous voyons des gens également qui croient en Christ pour aller au ciel et pour la rédemption, mais vous ne voyez pas de changement dans leur vie, pas de transformation. Vous ne voyez pas ces signes de la repentance en termes de se séparer du monde et de s'attacher à Christ, à ses valeurs, à ses critères moraux, en suivant le chemin de la sainteté. Vous ne voyez pas ce changement et cette consécration. Et nous voyons ceci dans ces versets. Bien sûr, Christ pouvait dire, parce qu'il est Dieu et il avait cette intelligence parfaite. Il voyait, il pouvait lire les cœurs. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Oh, ils pensaient, il est le Messie politique qui va nous délivrer de l'Empire romain et il va nous rendre prospères à nouveau. C'est cet homme qui va nous amener au ciel si nous croyons en lui. Je n'ai pas besoin de me repentir, je n'ai pas besoin de changer ma vie, je n'ai pas besoin de me donner à lui, je n'ai pas besoin de vivre pour lui ou de partager ses priorités, sa mission. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il pouvait lire leur cœur et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Il n'avait pas besoin de demander à quiconque « Est-ce que vous connaissez cette personne ?» Oh, nous avons vu ce qui s'est passé avec Nathanaël dans le chapitre précédent. Christ l'a vu même avant de le rencontrer. Il l'a vu là, dans sa méditation personnelle, sous un arbre, en plein air. Il l'a vu, la sincérité de son cœur, même avant qu'il ne le rencontre. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Il lit nos cœurs également. Christ examine nos cœurs dans cette congrégation et il connaît chacun d'entre nous. Sommes-nous chrétiens? Est-ce que nous l'avons cherché? Est-ce que nous l'avons trouvé? Est-ce que nous sommes confiés en lui? Et d'une certaine manière ensuite, nous avons accepté un péché secret où nous avons regardé des choses terribles en secret, ces choses qui nous enveloppent. Christ le sait, il sait si à ses yeux votre adoration aujourd'hui, votre culte était un acte d'hypocrisie parce que vous acceptez ce péché dans votre cœur, ou si vous cherchez son aide, que vous aspirez à cette sainteté et à grandir spirituellement, alors il a une bénédiction pour vous parce qu'il lit dans nos cœurs et il connaît chacun d'entre nous. Et ce qu'il voulait là, en faisant cette purification dans le temple, c'est cette sincérité, cet amour pour lui, que nous puissions le chercher et vivre pour lui. Il y a une telle profondeur dans ce chapitre pour nous remettre en question. Nous avons vu la pureté de Christ, sa puissance, nous avons vu combien il savait tout ce qui allait se passer en tant que prophète, que roi, que prêtre, et nous avons vu sa connaissance de tous les cœurs. Il savait qui allait être celui qui allait l'accuser, ceux qui allaient le crucifier, celui qui allait le trahir. Il savait tout ceci et qui, malgré toute leur faiblesse, allait l'aimer et lui être fidèle. Et nous voulons être dans cette catégorie, dans ce groupe de personnes et lui plaire. C'est là ce passage que nous avons considéré aujourd'hui.